Amen. Bonjour mes frères et sœurs, ouvrons le Saint-Livre s'il vous plaît. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, nous recevons donc une exhortation. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. À la fin de cette prédication, nous devrions savoir si nous allons être d'accord avec cette conclusion. Je termine, je crois, par la conclusion. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors mes frères et sœurs, relisons-le. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Est-ce que c'est votre préoccupation de travailler, pas de plus en plus, mais de mieux en mieux? Quand on travaille de plus en plus, on travaille de moins en moins bien. Il faut travailler de mieux en mieux. Est-ce que c'est important pour vous d'être ferme, inébranlable et de travailler de mieux en mieux? Ou est-ce que ce n'est pas important? Vous devez répondre au Seigneur. La deuxième lecture, c'est dans l'épître de Jacques où nous avons un enseignement sur les épreuves et sur le doute. Nous avons dans le texte que nous allons lire deux enseignements, plusieurs, mais deux qui ressortiront dans la prédication. Jacques, chapitre 1er, verset 2 au verset 8. Texte que je vous demande, enfin c'est de la part du Seigneur, c'est pas pour moi, faites ce que vous voulez, de méditer dans les prochains cultes personnels. Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Je relis ce verset. Il faut, il y a des impératifs avec Dieu, que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accompli. Accompli, c'est quelqu'un qui remplit les conditions, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je relis. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies, et on pourrait dire amen. Une fois qu'un chrétien est sauvé, je pense qu'il y a au milieu de nous des hommes, des femmes qui ont accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur, qui sont donc nés de nouveau, et quand on est né de nouveau, on devient une pierre vivante. Le drame, ça c'est une introduction, le drame dans le corps de Christ, c'est qu'il y a beaucoup de pierres mortes. C'est-à-dire qu'on essaie de construire l'Église avec des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ça met un pataquès pas possible dans le royaume des cieux. Ce qui fait qu'on a des mouvements, des pans de chrétiens entiers ne sont même pas nés de nouveau. C'est un vrai drame. En tous les cas, lorsqu'un chrétien est sauvé, c'est quoi un chrétien sauvé? Un pentecôtiste, un protestant, un baptiste, c'est quoi un chrétien sauvé? Il faut faire partie d'une dénomination? Non. Il faut vraiment être passé par la repentance et la conversion. Et je voudrais que vous vous examiniez, que nous nous examinions, pour voir où nous en sommes vraiment de ce que l'on va partager avec Dieu. Un chrétien, quand il est sauvé, il a besoin de grandir. Un enfant, il doit grandir. Si vous n'avez pas grandi, mais interrogez-vous. Si vous êtes toujours des bébés, on le sait écrit dans la Bible. Tout ce que je vous dis, c'est je ne l'invente pas. Paul dit, mais vous devriez être, enfin, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous devriez être des maîtres, je veux dire, des gars capables d'enseigner les autres. Et vous êtes des enfants. C'est un drame dans le royaume de Dieu. Mais c'est un drame, on ne le soupçonne pas. Enfin, moi, en tant que pasteur, je sais comme il est important pour le témoignage. Vous vous rendez compte ce que le monde voit de l'Église pour les gens du monde? L'Église, c'est toutes les dénominations. Pour les gens du monde, l'Église, aujourd'hui, c'est l'Église catholique. Il n'y a pas du tout de procès d'intention. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte, quand le monde regarde l'Église aujourd'hui, il voit une dénomination qui est encore plus dans le péché qu'eux. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit convainque de péché des pécheurs, alors que les soi-disant chrétiens sont encore plus embourbés dans le péché que les pécheurs? Je caricature un peu, mais vous savez que c'est vrai. Pour cela, Dieu a un plan, et pour cela, ça passe par des pierres vivantes. L'Église, c'est des pierres vivantes, ce n'est pas des dénominations. Hein, moi, je suis de telle dénomination, elle est mieux que l'autre, mais ça, c'est un langage qui est vraiment, vraiment enfantin. Par contre, nous, les pasteurs, nous devons nous occuper de cette affaire. Est-ce que vous voulez grandir? Vous devez répondre à mes questions par haute voix. Mais dans votre cœur, vous devez pouvoir dire, mais oui, je suis ton enfant, j'ai besoin de cette bénédiction. La bénédiction, c'est une chose, la croissance, ça n'est une autre. Paul dit, mais que Dieu a donné des pasteurs, c'est écrit, Éphésiens 4, afin que nous professions la vérité, c'est-à-dire que nous vivions la vérité. Vous savez, prêcher la vérité aux autres, c'est pas facile, c'est pas difficile. En professant la vérité, à cet égard, nous croîtrons tous, à tous égards. Une église, elle doit grandir. Un chrétien, il doit grandir. Il doit croître. C'est important pour vous, la maturité? Est-ce que ça vous est égal? Répondez-vous à vous-même au moins. Est-ce que c'est important de faire des progrès? Alors si quelque chose, ou si quelqu'un, si une situation empêche ces progrès, il va y avoir du trouble, du malaise, Du malheur. C'est une foi qui n'est pas affermie. Comme on vient de le lire. Qu'est-ce que dit Dieu? Parce que ce n'est pas Jacques qui parle, c'est Dieu. Il dit, par l'apôtre Jacques, c'est une image super claire, que celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il y a des chrétiens, ils sont constamment en train d'être ballotté. Il parle du vent, les flots de la mer. Le vent, ça peut nous faire penser au vent de doctrine. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Ça fait que dès qu'il y a une nouvelle doctrine, hop, ils acceptent la nouvelle doctrine. C'est des fables. Il y a des gens, ils sont capables d'accepter n'importe quelle nouvelle doctrine. Ils ne connaissent pas la Bible. Donc le diable n'a aucune difficulté à les faire tomber dans ce vent-là. En tous les cas, qu'est-ce que dit ce texte? C'est important de réfléchir. Qu'est-ce que dit ce texte? Où d'un côté, il nous est parlé des diverses épreuves qu'il faut que nous traversions, parce que nous ne sommes pas que des enfants bénis, nous sommes également des serviteurs qui devront faire des progrès. Il est impossible à ces personnes d'atteindre la paix. Quelqu'un qui est ballotté de droite et de gauche comme une vague qui avance. D'ailleurs, en plus, ça remet en question la prière. On n'aura pas le temps de le voir. Mais et en plus, le verdict est assez sévère, qu'il ne s'imagine pas, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Mais c'est triste. D'abord pour soi. Parlons pas pour le témoignage. On va en parler du témoignage. Mais d'abord pour soi-même. Que c'est triste de ne pas avoir d'assurance, de ne pas être dans le repos. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Nous, ça nous brise le cœur. Il y a des chrétiens qui ont 5 ans, 10 ans, 20 ans de conversion, qui ne savent pas ce que c'est le repos de la foi. Ça fait quand même de la peine. Ça fait vraiment de la peine. Et si on n'est pas dans le repos de la foi, je vais vous dire, ça va être très très difficile d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. En plus, elles sont prêtes. Il y a les épreuves d'un côté. Je sais qu'il y a des épreuves. Et il faut que nous soyons affectés par ces épreuves, on vient de le lire. Ces épreuves, Dieu les veut. Pourquoi? On l'a lu. Pour notre perfectionnement, c'est le verset 4, il faut que la patience, accomplissement, son... une épreuve, si vous ne l'acceptez pas, vous tournez en rond. Un an, deux ans, 20 ans, 30 ans, etc. Dès que vous acceptez l'épreuve, il y a un travail qui se fait afin que vous soyez parfait. Oh, la perfection, ce n'est pas de ce monde. On l'entend, ça, même beaucoup de chrétiens, mais des pasteurs. Moi, j'ai entendu des pasteurs dire ça. Oh, la perfection. Mes frères et sœurs, si le Seigneur nous demande d'être parfaits, bien sûr que nous ne serons jamais parfaits comme le Seigneur Jésus, ça c'est évident, c'est même pas la peine. Mais quand même, Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme qui ? Comme votre Père céleste est parfait. Donc la barre, elle est très haute. Mais on peut quand même faire des progrès. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons parfaits. Parfait, ça ne veut pas dire infaillible. Parfait, ça veut dire irréprochable. Si un homme aspire à la charge d'évêque, il aspire à une œuvre, il faut qu'il soit irréprochable. Irréprochable, c'est le gars, il a fait une erreur, il la répare. C'est ça, être irréprochable. Être irréprochable, vous pouvez l'être. Nous pouvons l'être. Je commets une erreur, je la répare. Devant Dieu et devant les hommes. C'est ça, être irréprochable. J'ai commis 15 erreurs, je les répare, toutes les 15. Devant Dieu et devant les hommes. Dieu veut le perfectionnement. Nous ne nous rendons pas compte où serait l'Église en France si nous avions vraiment pris au sérieux ces choses. Nous, on est captivés par la bénédiction, mais c'est pas, en plus, ce n'est pas un péché. Franchement, je ne vois pas quelqu'un, je vois pas le mal dans le fait d'être béni. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Il y a des chrétiens, ils prient, toute leur vie, ils ont pris ça, ils ont pas eu tort. Mais si c'est que ça, ça va pas. Seigneur, perfectionne-moi. C'est clair que quand vous demandez à Dieu de vous perfectionner, vous pouvez vous attendre à quand même des parcours plus ou moins compliqués. Les épreuves, c'est une chose. Elles sont voulues par Dieu pour notre perfectionnement. Mais les doutes, vous avez vu que dans ce texte, Dieu met ensemble les épreuves et les doutes et l'intelligence de demander de la sagesse pour comprendre ces choses. Les doutes, les épreuves, ça peut amener des situations différentes, mais les doutes, ça n'amène que du malaise, que des troubles, que du découragement. Le découragement, vous savez tout ce que c'est. Le découragement, c'est terrible, le découragement. Parce qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour qu'on passe du découragement au désespoir. Et je sais de quoi je parle. Le découragement, ça vient du diable, c'est sûr. Dieu nous demande de prendre courage. C'est quand la dernière fois où vous avez pris courage ? C'est dit, vous aurez des tribulations, mais... Franchement, là on voit si on ne ressemble pas aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ben, qu'ils n'étaient empêchés de le reconnaître. Ils étaient dans leur analyse et on ne comprend pas et on espérait que et on croyait que. Voilà, ils marchaient à côté de Jésus. Ils n'ont même pas réagi que c'était Jésus qui marchait à côté d'eux. Comme peut-être ce matin au travers de cette prédication, Dieu veut vous montrer qu'il marche à côté de vous et qu'il veut nous ouvrir les yeux pour que nous fassions des progrès. Un chrétien qui doute... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur. C'est un chrétien irrésolu, irrésolu, inconstant. Inconstant, irrésolu, dictionnaire. Irrésolu, indécis, incertain, perplexe, vacillant. Voilà ce qu'est un chrétien irrésolu, poussé par le vent de côté et d'autre. Et qu'est-ce que les autres en pensent ? Et qu'est-ce que les autres disent ? Il y a des gens qui ne... sont substantés que par les convictions des autres. Il y a des gens qui ne sont nourris que par les idées des autres, etc. Les nouveautés. C'est sérieux cette affaire, parce qu'il faut faire des progrès. Et c'est sûr que quelqu'un qui doute, il va être bloqué. Qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est dommage parce que Dieu veut donner. Dieu aime donner. Et il n'arrête pas de dire, prenez la Sainte Cène, c'est prenez et buvez, prenez et mangez, oui ou non ? Ce n'est pas le fait de prendre le pain et de prendre le vin, c'est le fait de saisir la bénédiction du Seigneur, la guérison, la restauration, etc. Mais combien de gens, ils prennent la Sainte Cène, ils prennent un bout de pain, ils prennent un bout de vin, ils n'ont pas saisi que c'est derrière, il y a une grande faveur divine. Pourquoi Dieu a institué la Sainte Cène ? Parce que Dieu aime la tradition, justement, c'est tout le contraire. Alors, premièrement, il y a une chose qu'il faut bien comprendre dans cette affaire. C'est qu'il ne faut pas confondre le doute avec l'humilité. Je peux vous dire, pour être pasteur depuis 35 ans, que des multitudes de chrétiens confondent le doute avec l'humilité. Quand on remet en question la fidélité de Dieu, quand on remet en question la vérité, parce que le problème, il est là. Laissez-moi vous dire qu'on est loin de l'humilité. Qui suis-je ? Qui suis-je pour que Dieu m'aime ? C'est de l'humilité ? Qui suis-je pour que Dieu m'aide ? C'est de l'humilité ? Non, c'est du doute. C'est du doute. Bien sûr qu'on pourrait faire une petite digression sur la dignité. Franchement, ça tiendrait debout dans ce contexte. Bien sûr que nous nous sentons tous misérables, d'accord ? Ça, je sais. Et que se sentir digne de l'amour de Dieu, ça peut prêter à confusion. Vous me suivez ? C'est évident. Mais penser qu'on est digne de ceci ou de cela, ça peut passer pour de l'arrogance. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. C'est sérieux ce que je vous dis. Tous les nouveaux chrétiens devraient comprendre ces choses. Mais la base de notre assurance, écoutez bien, frères et sœurs, parce que Jésus va bientôt revenir, il vaudrait mieux qu'on ait de l'assurance. La base de notre assurance ne repose pas sur notre bonté, mais sur celle de Dieu. Est-ce que vous le comprenez ? Quand il est dit « approchez-vous avec assurance », mon début de la conversion, je me suis, franchement, j'ai lu la Bible, je ne l'avais jamais ouverte, et quand j'ai lu « approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et d'être secouru dans vos besoins », j'ai dit « ça ne va pas être facile ». S'approcher de Dieu avec assurance, quand je vois comment j'étais, comment je suis, j'avais rien compris. Parce que ce n'est pas par rapport à nous qu'il faut s'approcher du trône de Dieu avec assurance. Il faut s'approcher de Dieu avec assurance à cause de ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez ? À cause de son amour, à cause de sa bonté. Si vous vous dites, oh non, cette semaine, moi, je ne m'approche pas de Dieu. Non, je ne m'approche pas à qui je suis. Vous voyez, ce n'est pas de l'humilité, ça. C'est de la bêtise. C'est de l'aveuglement. Vous pouvez vous approcher de Dieu avec assurance parce que Dieu, il vous accueille, qui que vous soyez, même si ça ne va pas bien. Vous le croyez, ça ?
Moi, je l'ai vu, ça. Oh non, je ne crie pas en ce moment, si vous saviez. Je n'ai pas été bien. Mais justement, c'est le meilleur moment de s'approcher de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et les gens, non, vous voyez. Mais c'est du doute, ça. C'est de l'humilité, ça. Non, ce n'est pas de l'humilité. C'est de la bêtise.
Une foi irrésolue n'est pas seulement un problème par rapport à la fidélité de Dieu, mais c'est un problème de souffrance envers nous-mêmes. Douter de la fidélité de Dieu, ça ne vous arrangera pas. Mais c'est dommage, vous vous faites du mal à vous. Vous faites du mal à vous. Qu'est-ce qu'on va faire si on est tout le temps en train de douter ? Alors je vais bien l'expliquer, ce n'est pas par rapport au salut, c'est par rapport aux promesses. Regardez ce verset, je vous le cite. Hébreux 3, verset 4, ne le cherchez pas. Nous sommes participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Ça pourrait être la conclusion de cette prédication. Nous sommes participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement. Vous voyez, retenir fermement. Soyez ferme, inébranlable, c'est le contraire du doute. Être irrésolu, être inconstant, c'est bien de voir dans le dictionnaire. Ça représente des chrétiens qui doutent. Qu'est-ce que vous diriez ? Je vais vous donner une image, elle est simple. Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui vous dit, écoute, à la sortie du culte, demain, je vais rejoindre le pic du Midi à pied. Attendez. Est-ce qu'on peut le faire ? Mais si vous disiez, je fais deux pas en avant et trois pas en arrière, et je vais rejoindre le pic du Midi, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Vous diriez, mais tu es ridicule.
Tu ne l'atteindras jamais, au contraire, tu t'en éloigneras. C'est exactement ça que Jésus est en train d'enseigner. Il utilise cette image super simple pour que nous comprenions bien que si notre foi, elle est bancale, si notre foi, elle n'est pas la vraie foi, nous vivrons dans le doute et nous n'atteindrons jamais l'objectif que nous pourrions nous fixer ou le plan que Dieu nous a préparé. Il faut bien le comprendre, ça. Beaucoup de chrétiens sont là. Ils peuvent chanter des cantiques sur la joie du salut. Moi, je demande aux meneurs de chant de commencer le culte toujours par des cantiques qui expriment la joie du salut. Parce qu'il n'y a pas à faire, même si on est en braque, il y a quand même la joie du salut. Oui ou non ? Même si on a passé une mauvaise semaine, il y a quand même la joie du salut. On peut être dans le deuil et en même temps se réjouir du salut de notre âme, etc. Mais la joie du salut, c'est bien. Et c'est extraordinaire de pouvoir dire « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Et on peut le chanter en pleurant, vous voyez. Parce qu'il y a dans notre cœur cette grâce d'avoir fait la paix avec le Seigneur. Si nous maintenons quand même sur le chemin, nous sommes sauvés. Si nous restons sur le chemin. Mais de l'autre, s'il y a la joie du salut qui est une bénédiction, de l'autre, il y a le processus de formation par les épreuves. Vous acceptez que Dieu vous fasse passer par des épreuves ? La personne a dit Amen. Mais de toute façon, si vous acceptiez ou pas, bon, vous connaissez la suite. Mais mes frères et sœurs, la joie du salut, gloire à Dieu. Les épreuves, qu'est-ce que Dieu nous demande ? Considérez, vous l'avez lu ce verset, considérez comme un sujet de joie complète. Pourquoi ? Parce qu'on est maso ? Non, parce qu'on a compris que chaque épreuve contribuera à notre perfectionnement. Si nous l'acceptons, si des milliers, voire la moitié des gens ont été rétrogradés, je dis ça parce que sur les 10 vierges, il y en a 5 qui ne sont pas prêtes, donc ça indique que dans le corps de Christ, quand Jésus reviendra chercher l'Église, la moitié aura rétrogradé, c'est sûr, c'est une prophétie, hein. Ça veut dire que des gens qui décrochent, comme on l'a vu la semaine dernière, dès que survit une tentation, dès qu'il y a une tribulation, dès qu'il y a une épreuve, stop, stop, stop. Ils reçoivent avec joie, mais dès qu'il y a une tribulation, c'est ce que j'explique. Il y a la joie du salut, il y a la joie de la grâce, etc. Mais dès que survient une tribulation, ça provoque des doutes, et ces doutes, à la place de les chasser, eh bien, ça les détruit. Ça les détruit. Il y a des épreuves. C'est pour ça que Dieu dit, eh bien, c'est bien là au milieu, si quelqu'un manque de sagesse, mes frères et sœurs, je le redis, je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est quand mon frère, ma sœur, je vous le dis sérieusement, c'est quand la dernière fois où tu as demandé à Dieu de l'intelligence spirituelle, du bon sens, de la sagesse, des aptitudes spirituelles. Peut-être que vous n'en avez pas besoin. Mais est-ce que vous pensez sérieusement qu'on ne pourrait pas demander davantage ? Pas pour faire les beaux, et surtout pas pour se comparer aux autres, mais sérieusement, qui dans ce lieu pourrait se lever et dire « Monsieur le pasteur, je vous assure, je n'ai pas besoin de demander de la sagesse, j'en suis blindé. » Je n'ai pas besoin de l'intelligence des temps, monsieur Gaugin, suive. Farci. Sérieusement, qui que nous soyons, nous devons demander à Dieu de l'intelligence. Regardez les amis de Daniel qui étaient en déportation, quand même, c'était compliqué. La Bible dit que Dieu leur accorda de la sagesse, de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que Dieu a des chouchous, mes frères et sœurs, parce qu'ils l'ont demandé. C'est évident. Vous savez que c'est vrai. Et nous devrions être vraiment sérieux quand le Seigneur dit dans sa parole, par rapport aux doutes, par rapport à toutes les attaques, résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de cette prédication ? Eh bien, combattez le doute. Ne doutez pas. Vous savez, la Bible demande de résister au diable, mais que l'on peut aussi résister à Dieu. Et croyez-moi, quand on laisse le doute, nous bousiller la vie, je peux vous dire, mes frères et sœurs, que si on n'est pas une source de bénédiction pour les proches, pour le royaume de Dieu, et pour le Seigneur lui-même, parce que je crois quand même qu'on a envie en premier d'honorer le Seigneur. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Le problème, et ça c'est un vrai, vrai, vrai problème, je parlais de l'humilité qu'on confond avec le doute, mais le vrai, vrai, vrai problème, écoutez bien, vous allez dire, mais c'est du béaba, quoi. Oui, c'est du béaba. C'est que beaucoup de chrétiens se sont tellement habitués à douter qu'ils finissent par vivre continuellement dans le doute. Et ils confondent même cette vie de doute avec une pseudo-foi. C'est grave. Mes frères et sœurs, il y a une vie de foi. On a chanté, je l'ai chanté ce matin dans mon bureau, « Ma foi est vivante en un Dieu vivant. » Tout le problème est là. Un chrétien, même s'il y a des bons combats, des mauvais de temps en temps, des difficiles combats, comme on l'a lu avant de commencer le culte, quand il est dit « Vous avez soutenu un grand combat », vous voyez, il y a des combats difficiles, on le sait. Mais mes frères et sœurs, tous ces combats doivent être vécus en étant assis dans les lieux célestes, assis dans le repos. Venez, recevez mes instructions, c'en est une. Elle est un peu longue, mais c'est une instruction. Recevez mes instructions, recevez-les, apprenez-les, dit Jésus, et vous trouverez le repos. Les gens, ils écoutent ça, vous pouvez dire, oui, c'était très intéressant. Mais c'est là-dedans, ça ne changera rien. Ce soir, vous aurez oublié, alors que vous pouvez en faire un sujet de prière sérieux et dire, oui, il faut que je me réapproprie cette foi que Dieu m'a donnée, parce que Dieu nous a donné à tous une mesure de foi. Et n'allez pas vous plaindre auprès du Seigneur en lui disant, Seigneur, mais ma foi, tu vois, je n'ai pas reçu assez de foi. Le Seigneur, il vous ferait des reproches sévères. Des fois, on dit à Dieu, parle-moi, parle-moi. Heureusement qu'il ne nous parle pas parfois. Croyez-moi. Mais mes frères et sœurs, tout vient de là. Tout doit contribuer à une foi vivante. Il y a une loi dans le royaume de Dieu. Je l'ai dit souvent, je vais vous le redire. C'est une loi du royaume. Ça fait partie de ces lois qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas transformer. C'est que dans le royaume de Dieu, il nous sera toujours fait selon votre foi. Il vous sera fait selon votre foi. Le juste, il vivra par sa foi. Béni soit Dieu pour la foi des autres. Gloire à Dieu. Si nous pouvons nous édifier les uns les autres. Quelle grâce quand nous pouvons compléter aux autres ce qui leur manque et vice-versa. C'est beau quand nous pouvons nous édifier les uns les autres, nous encourager les uns les autres, nous bénir les uns les autres. Tout ça, c'est biblique. Mais le juste, il ne vit pas avec la foi des autres, ce n'est pas vrai. Le juste, il vit par sa foi. Cette loi, elle est universelle, elle est inchangeable. Beaucoup de gens essaient de la changer avec les émotions, les sentiments. Mais mes frères et sœurs, nos échecs, on le comprend là dans ce texte. Puisqu'il est dit que celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Celui qui doute, on ne peut pas dire qu'il est dans le péché. Là aussi, vous voyez, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Vous voyez, je vous pose la question. Alors, je ne vais pas donner la réponse comme ça, parce que c'est compliqué. Celui qui doute, il ne recevra pas quelque chose de la part du Seigneur. Ça ouvre un débat. Est-ce que le doute est un péché? Voilà. Est-ce que le doute n'est pas... Vous voyez, c'est un gros sujet qu'on pourrait avoir avec les anciens. Mais enfin, en tous les cas, nos échecs, tournons-le comme ça, nos échecs ne viennent pas toujours de nos péchés. Nos échecs peuvent venir de nos doutes. C'est clair. Et le doute met ce fossé entre nous et Dieu. C'est quand même dommage de le louer pour le salut. On est sincère, Seigneur. Je pense que tous, on peut se lever et chanter « Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé ». Oui ou non? En étant vrai. Et de l'autre côté, on peut dire « Seigneur, je suis malheureux parce qu'il y a un fossé entre toi et moi que je n'arrive pas à combler parce que je n'arrive pas à régler cette affaire ». C'est vrai que j'ai été léger, je te demande même pas de la sagesse. Je te demande de l'argent, je te demande de toucher mon patron. Mais il peut le faire ça. Est-ce que Dieu peut tout? Oui. Mais vous ne croyez pas que ça serait quand même intelligent? Seigneur, donne-moi de la sagesse, tu vois le conflit que j'ai. Peut-être j'ai deux conflits, peut-être j'en ai trois. Est-ce que ça peut arriver d'avoir trois épreuves en même temps? Vous savez, les packages. Est-ce que ça peut arriver trois épreuves en même temps? Ben oui. Je me souviens la fois où mon épouse, elle est venue me voir, elle me dit « Gérard, j'ai fait un rêve cette nuit, tu vas traverser une épreuve, tu seras tout seul. Même moi, je ne pourrai pas t'aider. » Et je te le dis pour que tu le saches. Tu vas rester dans une épreuve, je ne pourrai pas t'aider. Tu ne suis même pas toi? Non, personne ne pourra t'aider. Personne. Ah, ça a été dur, je vous le dis. Mais après, j'étais quand même prévenu. Je le répète, nos échecs ne viennent pas que de nos péchés. nos échecs peuvent venir de nos doutes. C'est pour ça que c'est un problème qu'il faut absolument régler. Je le relis, verset 7. Celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alors, ne dramatisez pas. Bien sûr que vous êtes ses enfants. Dieu continuera à vous bénir, à pourvoir. Mais vous ne recevrez pas ce que vous auriez pu recevoir pour faire de vous des hommes, des femmes, des serviteurs, des servantes. Je ne sais pas, mais mes frères et sœurs, moi je veux être tendre. Oui, c'est vrai. Je veux vraiment de la tendresse. Et de la fermeté. Je veux être vraiment droit devant Dieu. Mais est-ce que vous réalisez, frères et sœurs, certaines parmi vous, le temps que vous avez perdu? Vous devriez être un ancien dans l'église. Vous devriez être peut-être, ma sœur, une diaconesse. Vous devriez être un serviteur, une servante. J'en suis certain. Et certains d'entre vous, vous êtes des bébés de 3-4 ans. Vous trouvez que j'exagère? Vous savez que c'est vrai. Et je ne dis pas ça avec un esprit de jugement. Si j'avais dans mon cœur un esprit de jugement, je me demande bien si je continuerais à prêcher. Je vous le dis, parce que je sais que c'est charnel et que la chair, ça sert à rien. Mais le doute, il met un fossé, il nous bloque. C'est pas que Dieu est en colère contre nous. Il y a des moments où Dieu est en colère parce que tout le peuple se détourne et l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Mais il y a des choses naturelles. C'est une loi. On va prendre un exemple, on va le lire ensemble. Dans Hébreux chapitre 3, juste avant Jacques, si vous êtes dans Jacques. Dans Hébreux chapitre 3, c'est bien expliqué. Et je voudrais que vous le lisiez. C'est vrai que c'est des textes qui sont sévères, mais ils sont pleins de simplicité. Hébreux chapitre 3, versets 18 et 19. Regardez, c'est une question et une réponse. C'est bien ces questions. Je vous ai dit l'autre jour que dans le livre de Job, j'en ai compté 292 questions. 292. Et cette semaine, j'ai relu le livre de Job et je relisais les 6 chapitres de ce jeune qui a pas été... Vous savez, Eliou, qui a été... 6 chapitres. Je vous fais une parenthèse, écoutez bien. Quand Dieu relève Job, le Seigneur fait des reproches sévères, mais vraiment sévères, aux 3 amis de Job. Vraiment. Et le 4e, qui a pourtant parlé plus que les 3 autres presque réunis, a été d'une extrême méchanceté. C'est poétique, mais je vous assure que c'est vraiment méchant. Et Dieu ne le lui reproche pas. Pourquoi? Parce qu'il était jeune. Et quand on est jeune, voilà. Vous êtes d'accord? Quand on est jeune, on dit des bêtises plus facilement. Oui? Quoique. Bon. Hébreux 3, versets 18 à 19. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Alors cette désobéissance, elle vient d'où? Verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. C'est pas Dieu qui les a punis, c'est eux qui se sont punis. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Je voudrais être tellement simple. Vous savez, moi je ne veux pas des prédications pour le cerveau. Je voudrais des prédications pour le cœur. C'est pas Dieu qui les a punis. C'est eux qui se sont punis à cause de leur incrédulité, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qui se sont punis. Et quand le doute se transforme en incrédulité, parce que douter, ça peut être très 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 passager. On doute quelques instants, on doute, mais le doute nous pousse à chercher Dieu. Le doute, c'est pas méchant. L'incrédulité, c'est un engagement, l'incrédulité. Je choisis de ne pas croire. C'est ça, l'incrédulité. Ils n'ont pas pu y rentrer, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'y croyaient pas, alors qu'ils auraient pu. L'incrédulité, elle ferme la porte. On n'a pas le temps de le voir avec d'autres textes. La foi, la confiance en Dieu, ouvre toutes les portes. Je voudrais que vous en soyez pétris de ça. La foi, seulement la foi, pas en vous, la foi en Dieu ouvre toutes les portes du royaume des cieux. C'est comme pour le salut. Pour le salut, c'est quoi le salut? Tiens donc, faisons un petit enseignement sur le salut. Est-ce que le salut, il faut payer pour être sauvé? Vous savez, j'ai lu cette semaine, parce qu'un sujet me préoccupe sur la réforme, j'ai lu les 95 thèses que le moine Luther a affichées sur l'Église en Allemagne, sur le salut par les œuvres, avec les indulgences. Quand on voit ce qu'on est capable de faire croire aux gens, par la peur de l'enfer, le salut, ça ne s'achète pas. D'accord? Le salut, ce n'est pas un truc à gagner. Moi, il y a des gens à qui on a dit, si tu souffres, moi je me rappelle, j'avais été prié pour une dame, je rentre dans la chambre, elle était en souffrance. Elle ne m'avait pas entendu, je suis rentré doucement. Elle était là en train de parler, j'ai fait, mais qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je me gagne? Qu'est-ce que je me gagne? Alors je dis, mais ma soeur, madame, qu'est-ce qui se passe? Alors on me discute, eh bien oui, je gagne le ciel. J'ai dit, attendez. Je dis, vous croyez que vous allez au ciel parce que vous souffrez? Oui. C'est ce qu'on m'a enseigné toute ma vie. En plus, elle était vieille. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je ne sais pas. On a prié, je lui ai parlé que c'était Jésus qui sauvait. Vous savez, on a des entretiens des fois un petit peu compliqués. Mais on a enseigné à des gens que le salut, il fallait le gagner. Il fallait le gagner. Il n'y a que les catholiques qui le croient, ça. Pour beaucoup de gens, le salut, c'est comme un sommet, il faut le conquérir. Il faut le conquérir. C'est des œuvres à faire. On est sauvé par les œuvres. Ça, c'est enseigné dans plein de dénominations. On est sauvé par les œuvres. Même si c'est vrai que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Uniquement dans la grâce de Dieu. Le salut, c'est un don. Oui ou non? Un don. Un don, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est le prendre. Pour le salut, c'est réglé, on le sait, on ne peut pas payer, le sang de Jésus est inestimable. Bon, cette conviction de péché nous amène à saisir le salut, on le sait, le salut, même si ça doit enclencher des œuvres, si vous ne faites pas d'œuvres, faites-vous du souci si vous ne faites pas d'œuvres pour le Seigneur, moi je vous le dis, faites-vous du souci sérieux. Mais le salut ne se saisit pas par les œuvres, le salut c'est un don. Jésus me donne un cadeau. J'aime pas ce mot cadeau parce que c'est un don. Ouais, le mot cadeau ne va pas. C'est un don, le salut. Le seul moyen pour obtenir le salut, c'est la foi dans la grâce de Dieu. Nous le savons, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais nous, dès qu'on sort du salut, pour notre progression spirituelle, pour la croissance, pour la maturité, etc., il faut de suite... Mais c'est un travers. Je ne sais pas si c'est un atavisme en France, une hérédité qui s'est installée vraiment dans le pays, mais c'est quelque chose de terrible. Il faut que pour obtenir quelque chose, il faut rajouter quelque chose à la foi. Il ne s'est pas écrit, il vous sera fait selon la foi et selon les pleurs. Un jour, il y avait une dame ici, c'était au début que je suis arrivé. On était en train d'avoir une réunion, on parlait avant la réunion, et puis tout d'un coup, on dit voilà, prions. Et la sœur, elle était en train de discuter avec une autre sœur. Et puis, elle parlait comme vous, là, comme moi en ce moment. Et puis, tout d'un coup, elle m'a prié. Alors, elle s'est fait pleurer. Elle s'est fait pleurer. Alors, je vais la voir à la fin de la réunion. J'ai dit, mais... Ça faisait 3-4 fois que ça durait. J'ai dit, mais pourquoi quand vous priez, vous vous faites pleurer? Alors, elle me regarde comme si elle apprenait quelque chose. J'ai dit, mais... Est-ce que vous avez réalisé, on parle, tout ça, plaf, et puis t'es compris. On ne pleure pas sur commande, en plus, c'est un truc... Ben, ça vous fait rire, mais enfin, je peux vous dire que ça a abîmé des églises, ça. Et je lui ai dit, est-ce que la première... Alors, je savais où ça venait. Écoutez bien. La première fois que vous avez prié, vous étiez dans la détresse et vous avez pleuré. Ah oui, c'est ce qui s'est passé. Dieu vous a exaucé, et oui, c'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, quand vous priez... Pour que Dieu vous exauce, vous vous faites pleurer. Elle me dit, oui, c'est ça. Comment vous le savez? Mais est-ce que vous avez compris, mes frères et sœurs? Est-ce que je suis clair? Les gens, ils veulent toujours ajouter quelque chose à la foi. La foi et les pleurs. La foi et les sentiments. C'est comme ça. Ah, monsieur Gros, ce matin, vous avez senti la présence de Dieu? Non. Non, moi, j'ai senti la présence de Dieu. J'en avais même la chair de poule. Je dis non. Je sais que Dieu est là, moi je n'ai pas besoin de le sentir. À Après, t'as mieux, ça mieux. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais très bien qu'on peut ressentir la présence de Dieu. Moi, je vous assure, ce matin, je lisais, j'ai lu le livre d'Esther. Vraiment, et quand on chantait un des cantiques là, lequel que chantait, qui était bien chanté quand même, enfin. On a chanté, nous t'adorons dans le temple, je ne sais pas si... Non, sur un cantique, je pensais à la souveraineté de Dieu, comment il a incliné le cœur de Assuérus. C'est extraordinaire. Oui ou non? Mes frères et sœurs, Dieu est tout puissant. Il peut tout. Il peut même donner réveiller un roi pour qu'il lise ce qui s'est passé la semaine dernière dans les annales. Il est tout puissant, le Seigneur. Vous le croyez vraiment? Et quand on commence à rajouter même de la ferveur, il y a des gens, par exemple, alors ce que je vais dire, c'est à partager, mais il y a des gens, par exemple, ils vont crier quand ils prient. Je ne dis pas que les supplications ne peuvent pas ne pas être faites avec des cris. On voit bien dans la Bible des gens qui ont crié tellement ils étaient à la douleur, mais ce n'est pas parce que j'ajouterai à la foi une espèce de ferveur charnelle que ça va faire que Dieu va m'exaucer. Est-ce que vous me suivez? C'est important, il y a des chrétiens, ils crient quand ils prient. Parce qu'ils ajoutent à la foi, alors je sais que c'est un sujet qui fera polémique, c'est pas grave. Mais mes frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de rajouter quelque chose. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Dieu l'a dit, je le crois. Bon, vous savez, quand je me suis converti, toutes ces choses que j'ai lues de suite, j'avais jamais ouvert la Bible. C'est compliqué. L'enfer, le paradis, mais je savais que c'était vrai. Combien de gens, mais vous croyez que c'est vrai ça? De quoi? Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Une ville de 2000 km de haut, tout en or. Vous croyez que c'est possible, sérieusement? Une ville, non mais 2000 km de haut, tout en or. Quelqu'un un jour m'a dit, mais où Dieu va trouver tout cet or? Je vous assure que c'est vrai. J'ai dit, je ne sais pas. Alors, on ne va pas parler sur cet aspect toute la matinée, mais maintenant il y a une question qui se pose. Vraiment une question qui se pose. Comment mettre un terme à ça? Comment mettre un terme à cette foi vacillante, hésitante, irrésolue, comme c'est écrit? C'est très simple. Je crois ce que Dieu dit. Je crois ce que Dieu dit. Je renonce à hésiter. Je renonce à douter. Je comprends pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ah, je comprends vraiment. Le doute, alors je prends un exemple basique parce que ça revient souvent. Le doute dit, oh non, cette fois-ci, Dieu ne me pardonnera pas. Non, je suis sûr que Dieu ne me pardonnera pas. Nya, 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 nya. La foi, Dieu pardonne. Il l'a dit, il pardonne. David aurait dû être lapidé à cause de ses péchés, de gros péchés, de grands péchés. Et il a cru dans la grâce de Dieu. Bien sûr, si vous vivez continuellement dans le péché, c'est une autre paire de manches, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous vivez continuellement dans le péché, c'est une autre affaire qui nécessite une vraie repentance. Mais si vous commettez un péché, qui peut arriver et que ça revienne, ça peut arriver. Si vous avez péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ, le juste, qui est fidèle et juste pour nous pardonner. La foi saisit le pardon. Pierre avait renié Jésus. Jésus avait dit, celui qui me reniera, devant le Père, devant les hommes, pardon, je le renierai devant mon Père, qui est dans les cieux. Et Pierre, qui a fait l'intéressant à côté des autres, il a renié Jésus devant les hommes. Et qui c'est qui prêche à la Pentecôte? Mais tu te dis, mais attends, je l'ai déjà dit, mais Pierre n'aurait jamais prêché dans les assemblées de Dieu de France. Ah mais ça, je l'assume en tout. Et en plus, quand il prêche, il dit, devant les 11 qui sont derrière, il dit, vous avez renié le saint et le juste. J'imagine la tête des autres derrière, en train de dire, mais vraiment, 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 Pierre, il n'est pas gêné. Mais moi, j'ai plus rien à lire cette histoire, parce que quand Dieu pardonne, il pardonne, mes frères et sœurs. Et si vous êtes tout le temps en train de dire, mais je ne sais pas si Dieu me pardonne, c'est quoi ça? C'est de l'orgueil. Vous doutez, le doute, ça amène à l'orgueil. Parce que qui vous êtes, vous, pour que Dieu ne vous pardonne pas, que son sang ne soit pas efficace, etc. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. On ne va pas parler de ça tout le long. Nous devons renoncer à douter, je sais de quoi je parle là, de la même manière que nous renonçons à voler.
peut-être que, ou à fumer. Vous vous rappelez quand vous étiez pas pêcheur? Vous vous souvenez quand même, un peu. Moi, des fois, quand je témoigne, j'ai l'impression que je mens. Je vous assure tellement, je dis, mais c'est pas vrai, t'as pas fait ça. Mes frères et sœurs, nous devons renoncer à douter. Dieu dit, ne doute pas. C'est tout. Quand Pierre s'enfonce, bon, quand même, il a des circonstances atténuantes. Quand Pierre s'enfonce dans l'eau, et Jésus lui dit, mais pourquoi as-tu douté? Est-ce que vous le critiquez à Pierre? Bon. Nous devons renoncer à douter de la même manière que nous avons renoncé à certains autres péchés. Comme voler, c'était mon cas. C'est un engagement, mes frères et sœurs. C'est un engagement. Bien sûr qu'il y en aura d'autres tentations de douter. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a dit « Fixez les yeux sur Jésus ». Pourquoi Dieu a dit ça? Pour qu'on arrête de les fixer sur nous. On a tout le temps les yeux fixés sur nous. On ne s'en rend pas compte. Ce matin, je prends un autre exemple. Oh, ce matin, le réveil a sonné, je ne me suis pas levé. Oh, je n'ai pas pu lire ma Bible, je n'ai pas prié. Voilà, je vais passer une mauvaise journée. Frères et sœurs, vous croyez que parce que vous n'avez pas lu la Bible et que vous n'avez pas prié ou très vite fait, vous avez passé une mauvaise journée? Pourquoi? Parce que ça dépend de votre foi à vous, ça dépend de Dieu qui vous protège. Bien sûr que si vous faites ça tous les matins, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Oh, monsieur Gou, il nous a donné l'enseignement, c'était succulent ce matin. Même si tu plies plus, si tu pries plus, c'est pas grave. Bien sûr que je vous ai dit ça. Mes frères et sœurs, mais hey, quelqu'un dit, oh, ce matin, oh là, t'as prié une heure. Pour une heure, t'as prié. Non, écoutez-moi bien. Oh, t'as passé une heure dans la prière. Alléluia. Dites-moi que j'exagère. 2 heures. Alors là, t'as vraiment, le Seigneur, il va te bénir. Mais on la met où, la foi? On la met dans sa foi ou on la met en Dieu? Mes frères et sœurs, béni soit Dieu si vous pouvez prier plus longtemps. Béni soit Dieu si vous pouvez lire plus longtemps. Mais si vous vous confiez dans ces choses, c'est la preuve que vous mettez votre foi dans votre foi. En vous et non pas en Dieu. Ayez foi en Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ayez foi en Dieu. Et pourquoi le Seigneur demande, par le biais de l'apôtre Paul, de prendre, vous voyez, prendre, prenez par-dessus tout, toutes les autres armes, il y en a un paquet en plus, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez, c'est un acte de foi. Je le prends, vraiment. Et comment prendre le bouclier de la foi si on ne lit pas la Bible? Parce que si vous dites, Seigneur, augmente ma foi, et que vous ne lisez jamais votre Bible, c'est exactement comme si vous ne vous exerciez jamais à combattre avec ce bouclier. Vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous entendez? Tous. Alléluia. C'est ça la victoire. L'Esprit de Dieu ne peut pas vous pousser à douter de l'amour du Seigneur. L'Esprit de Dieu ne peut pas vous pousser à vous éloigner de l'Église, à vous éloigner du corps de Christ. L'amour de Dieu vous poussera à être des bénédictions. Je n'ai pas parlé du témoignage, j'aurais aimé en parler. Mais quel témoignage rendons-nous quand nous sommes toujours dans le doute? Non seulement la tristesse que nous devons infliger au Seigneur, la tristesse que nous infligeons aux autres et la tristesse que nous infligeons. Alors que pourrait marcher avec assurance. Il faut le croire. Ce que Dieu dit, croyez-le. Quand la Bible dit « ne t'irrite pas », pourquoi c'est écrit tant de fois ça? Vous voulez une explication? Vous l'avez. Vous le savez, « ne t'irrite pas », ça serait mal faire. Faites confiance à Dieu. Ne t'irrite pas contre l'un, contre l'autre, contre ta femme. Moi, m'irriter contre ma femme. Hein. M'irriter contre mon mari. M'irriter contre mon pasteur qui prêche trop longtemps. Non. M'irriter contre tel gouverneur ou tel président? Non, jamais. Mes frères et sœurs, Dieu règne au siècle des siècles. Il règne. Il ne règne pas sur les gens qui doutent. Il règne sur les gens qui ont une foi vivante.
Il règne. C'est pour ça que j'ai commencé avec ce verset. Mes frères, mes sœurs, que vous soyez jeunes ou que vous soyez vieux, que vous soyez malades ou que vous soyez en bonne santé, que vous soyez dans les ténèbres, parce que ça peut arriver, il y a des moments où on est dans les ténèbres. Oui ou non ? C'est biblique ce que je vous dis, vous inquiétez pas, n'hésitez pas, il a dit ça. Ça peut arriver d'être dans des passages difficiles. Qu'on soit dans les ténèbres, qu'on soit dans la lumière, qu'on soit dans les épreuves, dans les bénédictions, qu'on soit dans la maladie, dans la santé. Croyez ce que Dieu dit. Ne commencez pas à douter parce que, ah, il y a ça, ah, ça y est, je doute. Mes frères et sœurs, soyez fermes, inébranlables. Si Dieu vous dit, soyez fermes, c'est que vous pouvez être fermes. Alléluia. Si Dieu vous dit que vous pouvez être inébranlables, plus que vainqueur. Comment ? Ma foi, elle est vivante. Mais ce n'est pas tellement ma foi qui est vivante. C'est parce que Dieu, il est vivant. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je le répète. Vous savez, moi, j'ai tout le temps demandé, je demande à Dieu des choses. Je demande des choses. Et j'ai tellement vu des gens. Quand on fait des visites, vous savez, il y a des chrétiens qui sont bien. Mais ce que j'en ai marre, priez pour moi, que Dieu me reprenne, j'en ai marre. J'en ai marre de vivre, j'en ai marre. Priez pour moi pour que Dieu me reprenne. Vous êtes sûr qu'il faut prier pour ça ? Oui, oui, priez pour moi, j'en ai marre. J'ai entendu ça souvent. Je ne les juge pas, puisque moi aussi, je vais demander à Dieu qu'il me reprenne. Ça marche jamais. Et puis après, 3 mois après, c'est arrivé quelquefois, la même personne, « Monsieur Gauche, je suis à l'hôpital, venez prier pour moi, s'il vous plaît. » Ah, j'arrive. À l'hôpital, « Monsieur Gauche, priez pour moi, je ne vais pas bien, j'ai peur. » Et pourquoi vous voulez que je prie ? Mais pour que Dieu me guérisse. Hein ? Mais il me semblait que... quoi ? Mais il me semblait que vous vouliez partir. Non, 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 je veux voir grandir mes petits-enfants, monsieur, que je ne veux pas mourir. Je l'ai vécu ça plusieurs fois. Alors bien sûr, je ne vais pas juger parce que j'ai fait pire sûrement. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dans ce truc-là. Mais moi, je me suis posé la question, tiens, si tu devais partir, comment tu réagirais, toi ? Et quand j'ai fait l'AVC ? Et quand j'ai entendu le docteur, le neurologue, dire à ma femme, votre mari, il ne passera pas la nuit. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, merci de me prévenir. Mais vraiment, j'ai dit merci. Je vous promets devant Dieu que c'est vrai. Pourquoi ? Parce que je sais que Dieu règne. Nos vies ne sont pas entre les mains des neurologues. Nos vies, elles sont dans les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour les neurologues et tous les docteurs. Que Dieu soit béni pour tous nos docteurs que nous avons en France et qui nous soignent presque tous gratuitement. Mais mes frères et sœurs, Dieu règne. Et tant qu'il a besoin de vous, il vous gardera. Que vous soyez malade ou pas. Est-ce que vous le croyez ? Vous croyez que votre vie, elle dépend des médicaments ? Bien sûr, qu'il faut. Moi j'en prends pour ma tension. Ça ne me gêne pas d'en prendre. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il est tout puissant. Vous savez, si un frère, une sœur, votre mari, votre femme, n'est pas toujours digne de confiance, est-ce qu'on devrait avoir confiance en son mari ? C'est clair. Mais ça peut arriver quand même qu'il y ait une faille. Mais Dieu, sérieusement, est-ce qu'on peut terminer ce culte en posant la question, mais mon frère, ma sœur, écoute, réponds-lui. Est-ce que Dieu est digne de confiance ? Est-ce que tu le crois vraiment ? Que Dieu est digne de confiance. Relisez, moi je vous dis ce matin, j'ai lu Daniel et Esther. Mais j'avais envie, je me suis mis à genoux, je vous le dis, c'est pas pour faire le malin. J'étais bouleversé, comment le Seigneur. Et pourtant dans le livre d'Esther, il y a 10 chapitres, pas une fois il est parlé de Dieu. Pas une fois. Mais même dans un contexte, à part qu'ils ont jeûné, mais c'est tout. Pas une fois, il y a le nom de Dieu dans ce livre. Mais Dieu contrôle tout dans cette affaire. Mais lisez-le, ce livre. Lisez-le à genoux. Oh, monsieur Gros, il devient mystique. Écoutez-moi bien. Vous avez compris ce que je voulais dire. Lisez-le avec votre cœur. Et vous verrez comment Dieu règne au siècle des siècles. Il est digne de confiance. Vous savez, je ne le fais pas, mais je pourrais terminer en répétant 20 fois de suite, Dieu est digne de confiance. En plus, si vous êtes son enfant, vous pouvez dire, ouais, le Seigneur Dieu, je peux l'appeler Père éternel. Si vous pouvez dire ça, laissez-moi vous dire que vous pouvez terminer ce culte en rendant grâce à Dieu. D'ailleurs, on va le faire. Est-ce qu'on peut lui rendre grâce pour sa souveraineté? Il ne se trompe jamais. Mais ne doutez pas, ne doutons pas, mes frères et sœurs, demandons à Dieu de la sagesse. Prions, prions avec, louons le Seigneur. Moi, j'aimerais qu'on termine ce culte en le louant. Vous êtes d'accord? On ne va pas le prier, on va le louer. Il y a quelqu'un qui est contre? Alors, on va le louer. Notre Père, quel immense privilège de pouvoir appeler le Créateur de toutes choses, notre Père. C'est bien, Seigneur, que tous ensemble ce matin, nous t'appelions notre Père. Tu es aux cieux, bientôt nous viendrons près de toi. Quelle grâce éternelle de savoir que bientôt, avec tous les bien-aimés qui nous ont précédés, nous te rencontrerons, nous prendrons ce repas. Seigneur, merci pour le peu que tu nous as dit et qui est suffisant pour nous stimuler jusqu'à la fin. Oui, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Et même, comme dit David, quand la terre est bouleversée, nos cœurs sont sans crainte. Parce que tu es notre Dieu. Et comme des poussins à l'abri sous les ailes de la poule, nous avons pris ombrage sous tes ailes. Et nous sommes heureux de l'avoir fait par la foi, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous comptons sur ta grâce pour aller plus loin. Dans la maturité, dans le perfectionnement, dans la croissance. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Oui, toi, le Dieu du ciel, même si nous sommes dans ce pays corrompu, pervers et athée, nous restons à tes pieds. Et nous voulons faire partie de ces vainqueurs, Seigneur. Debout, veillant, grandissant, afin de faire les œuvres que tu as préparées à l'avance. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Amen.